nous arrivons sur la ligne droite de cette saga d'été, bras de fer d'été. Et nous avons vu comment Dieu, par sa grâce et son amour, son grand projet missionnaire de sauvetage pour Ninive et pour aussi son prophète. Mais aussi, nous voyons aussi cette tension, cette réalité qu'il y a entre son prophète et Dieu aussi. Et c'est vraiment, ce chapitre va vraiment permettre d'éclaircir, de comprendre toutes les nuances de cette tension, de cette mission qui paraît tellement grande pour Jonas, tellement compliquée aussi pour Jonas, mais tellement beau aussi pour Ninive. Et en parlant de plan de sauvetage, j'aimerais nous raconter une petite histoire tirée d'un film de guerre que peut-être beaucoup nous ici on connaît. Et ce film, c'est « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ce film, en fait, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une équipe de soldats américaines qui ont pour but une mission folle, je dirais. Parce que, en fait, cette mission consiste à aller sauver un seul homme, de prendre une unité complète pour aller sauver un seul homme, cet homme, James Ryan. Toute l'opération paraît un peu disproportionnée quand on voit que tant de soldats pour une seule vie. Parfois est incompréhensible, coûteuse, extrêmement risquée. Mais le capitaine John Miller, lui, comprend que cette mission a une grande valeur, une valeur immense, humanitaire. Il comprend que sauver un seul homme avait un sens moral immense, qu'une vie, qu'une seule vie, était si précieuse. De la même manière, Dieu, lui, le plus grand des commandants, a lui aussi lancé une mission folle, un sauvetage fou, mais pour quelque chose de bien plus grand. Sauver tous les hommes, pas un seul, tous les hommes pécheurs du jugement. Et même si aux yeux de Jonas, et aussi aux yeux de pas mal d'hommes, ce plan semble scandaleux, démesuré, illogique, ou parfois trop coûteux aussi. Mais Dieu, lui, agit ainsi. C'est comme ça que Dieu agit. Chaque créature est précieuse pour le Créateur. Chaque créature est précieuse pour le Créateur. C'est exactement ce que nous allons explorer ce matin, ensemble. Par scandalisé par la grâce. Scandalisé par la grâce. Lisons Jonas. Je vous invite à lire avec moi. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec vous. Bon, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec vous. J'ai peut-être dit une erreur. En tout cas, prenons la lecture de la parole. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu nous envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'éteint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser et qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Fin de la lecture, la parole de Dieu. Pour résumer l'idée centrale de ce texte, la rigidité de l'homme, mais la condamne. Excusez-moi, je vais leur lire. La rigidité de l'homme condamne, mais la grâce de Dieu sauve. Le récit de Jonas aura pu très bien se terminer au chapitre 3, très clairement. Pourquoi ? Parce que Jonas a achevé sa mission. Il a été apporté la parole de l'Éternel à Ninive. Et Dieu aussi a atteint son but de sauver Ninive. Pourtant, le livre de Jonas ne s'intéresse pas uniquement à la repentance de Ninive, mais aussi au lien qui unit son prophète et lui-même. Mais pour Jonas, à sa grande surprise, et peut-être à son grand déplaisir, les habitants de Ninive se repentirent. Oui, sincèrement, par des actes visibles qu'on a vus et auditifs. Et Dieu, lui, immuable dans son essence, il ne change pas. Il accorde sa grâce et épargne Ninive de leur méchanceté. Alors Jonas, comme dans son habitude que nous pouvons voir, Jonas nous replonge dans un retournement inattendu. Plutôt que d'adorer Dieu, de se réjouir de la grâce de Dieu pour Ninive, de voir toutes ses vies sauvées, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Jonas ? Il s'irrite, il se fâche contre Dieu. Quelle réaction étonnante, n'est-ce pas ? Pour un prophète. Et pourtant, ce passage est un miroir qui nous envoie directement, parfois, à notre propre image. Voilà pourquoi le chapitre 4 ici est si important et si percutant. Le narrateur pénètre au cœur de la relation entre l'homme et Dieu. Il nous rappelle que l'apparence extérieure ne reflète pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes vis-à-vis de la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans ce texte. Et on commence par le premier point qui est une rigidité qui condamne. Jonas, à peine que Dieu fit grâce à Ninive, Jonas explose de colère. C'est surprenant, parce qu'un évangéliste contemporain qui aime son prochain, lui serait tellement heureux d'apprendre qu'il y a eu une conversion plus de 1 million de personnes. Ce serait vraiment incroyable, une joie immense. Mais pour Jonas, lui, il ne se réjouit pas, non. 1 demi-million de Ninivites, non. Il préfère mourir que de voir la grâce de Dieu agir. C'est vraiment incroyable, cette réaction. Et cette réaction est une contradiction flagrante. La justice de Jonas, elle est sélective. Il accepte la grâce pour lui-même, quand Dieu l'a sauvé à travers la baleine, mais pas pour ses ennemis. C'est un comportement égoïste. Dès que Dieu applique la même grâce à ceux qu'il considère comme indignes, Jonas explose de colère. Alors là, ici, le voile de Jonas se lève. Le voile de Jonas se lève. Et on comprend enfin ses véritables motivations dans sa prière. Il prie à l'Éternel en disant « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » En commençant sa prière, Jonas revient sur un fait qui s'est passé, sa fuite à Tarsis. Il avoue enfin la véritable raison de sa désobéissance. Sa fuite n'était pas simplement une fuite de peur ou parce que c'était une mission trop risquée. Non. Son refus était profondément de ne pas accepter la grâce, ce plan de sauvetage pour Ninive. Et il avait 3 arguments, 3 raisons. Pour lui, cette mission est une humiliation. C'est un prophète d'Israël. C'était une humiliation. Il s'est senti comme un pion entre les mains de Dieu. Pourquoi ? Lui, il se voyait comme un bouc émissaire envoyé dans le désert. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes étaient envoyés auprès du peuple de Dieu seulement. Israël ou Juda, le peuple de l'Alliance, Leur mission consistait à appeler leur propre comportement, à appeler les compatriotes à la repentance et à la fidélité de Dieu. Mais pour Jonas, hélas, malheureusement pour lui, il a été envoyé chez des étrangers. Voilà le déshonneur qu'il a reçu. Il aura voulu être le prophète du salut pour Israël, mais pas pour Ninive. Deuxième point, Jonas était un nationaliste de cœur et spirituellement. Ninive est vue comme une menace pour Israël. Ils étaient ennemis. Jonas se croyait légitime de juger Ninive et de refuser sa mission. Jonas était un Israélite fier de l'être, sans doute attaché à la loi, à la Torah, qui distinguait Israël, peuple saint, élu, mis à part des nations païennes vouées à la destruction. En jugeant les Ninivites indignes de recevoir le pardon ici, Jonas se prend comme Dieu. En tout cas, il se sent légitime d'être comme un conseiller de Dieu qui vient juger. Troisième point aussi, Jonas montre aussi une vision, dans son attitude, une vision rigide de la grâce de Dieu. Comme Jonas et probablement beaucoup de personnes, face à une opposition, quand on est face à une opposition ou un conflit, qu'est-ce qu'on aimerait faire quand le conflit n'avance pas ou quand on déteste quelque chose ou quand rien n'aboutit à une réconciliation? Eh bien, on dirait que justice soit faite. Mais en disant cela, le jugement n'a pas de possibilité de repentance, ce jugement. Dieu, lui, c'est plutôt l'inverse. Je donne une seconde chance à celui qui se repent face au jugement. Pour Jonas, cette perspective de Dieu, de la grâce, est insupportable. Pourquoi ? Parce que la justice parfaite de Dieu n'est pas la justice imparfaite des hommes. La justice de Dieu est absolue. Elle repose sur un de ses attributs centraux, sa sainteté parfaite l'exige. Voyons voir dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes sont mauvais et aucun péché, même le plus petit à nos yeux, ne peut pas subsister à ses yeux. » En revanche, la justice humaine est relative et conditionnelle. Nous jugeons en fonction de la gravité des actes. Un exemple, un vol et un meurtre ne reçoivent pas la même peine. Et nous classons les gens par catégorie, bon ou pas bon. Alors, forcément, notre vision humaine est souvent trop limitée pour comprendre pleinement la profondeur de la justice de Dieu et de sa grâce. Et elle crée inévitablement une tension. C'est bien pour cette raison, citée, que la grâce semble parfois si scandaleuse, car elle est offerte gratuitement à quiconque accepte de se repentir par la foi, quels que soient ses crimes ou son passé. Oui. En 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale, Michio Fushida était capitaine de service aérien de l'armée impériale japonaise. Le 7 décembre 1941, il dirige l'attaque de Pearl Harbor, tuant des milliers d'Américains. Pour beaucoup d'Américains, Fushida était un monstre de guerre. Quelques mois plus tard, un certain Jacob Deschazer, un jeune Américain, participe à un raid de représailles contre le Japon. Capturé, il passe 3 mois dans les camps prisonniers japonais, subissant la torture, la faim, l'humiliation extrême. Pendant sa détention, qu'a-t-il fait ? Il a lu une Bible et il a rencontré Jésus. Donc, il a accepté le Seigneur. Il a une conversion dans la prison. Et sa haine envers les Japonais se transforme en amour. Il finit même par prier pour eux. Après la guerre, Deschazer retourna au Japon, non pas pour se venger des Japonais, mais pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. C'est là qu'il rencontra Fushida, l'ancien capitaine de l'attaque de Pearl Harbor. Et Fushida était très intégré par le témoignage des chasseurs. Alors lui aussi, il prit une Bible et la lit. Et il fut bouleversé par le message de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a été bouleversé par ces paroles de Jésus à la croix. Alors cet ancien japonais, pilote, capitaine, responsable de milliers de morts, donne sa vie lui aussi à Jésus-Christ. Et la grâce scandaleuse transforme un bombardier devenu prédicateur de la grâce. Incroyable. Mais pour les familles des victimes de Pearl Harbor, la conversion de Fushida était impossible à accepter. Que Dieu puisse pardonner et laver les mains d'un monstre sanguinaire de guerre, c'est impossible. Mais la grâce de Dieu est ainsi. Elle pardonne les monstres capables de se repentir devant Jésus. Même si humainement, parfois, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir l'accepter. Oui, c'est dur. Et Jésus nous rappelle, encore une fois, que cette grâce ne doit pas rester théorique simplement. Elle doit nous amener à aimer nos ennemis aussi, en parole et en acte, comme Déchazer le fait ici. Dans Luc, chapitre 6, verset 27, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Voilà, Jonas. Lui n'avait aucun doute que le Dieu d'Israël était un Dieu de grâce, mais simplement pour Israël. Mais surtout pas pour les nations voisines, pas pour les autres nations. Il n'avait pas compris ça. Et cet angle mort de sa vision qu'il avait rigide de la grâce l'empêchait de saisir tout le sens de la promesse divine qui a été donnée au père de la foi, Abraham. Genèse 12, verset 3. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il ne comprend pas que la grâce accordée à Abraham serait universelle pour toutes les nations et pas seulement réservée à Israël. Dieu est juste et rempli de grâce. Et il veut que nous apprenions à être justes aussi et pleins de grâce envers les autres. Même aller jusqu'à plus loin nos ennemis. C'est ici que ce récit devient un véritable miroir pour nous-mêmes. Jonas montre qu'un cœur peut être très dur, même derrière une foi qui semble d'apparence solide. Jonas reflète des cœurs qui oublient que tous, nous avons été rachetés uniquement par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu s'est manifestée pleinement en Jésus-Christ. Nous l'avons proclamé, nous l'avons chanté. Lui qui incarne cette grâce parfaite, offerte à tous les hommes, afin que personne ne puisse se vanter devant la grande justice de Dieu. Oui, si un homme, admettons, se tenait devant Dieu et disait « Regarde Seigneur, regarde Dieu, j'allais à l'église, j'ai été investi dans l'église, je lis ma Bible, je prie pour les autres et je fais le bien. » Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de mon fils? Cet homme avait oublié que ce n'est pas par ses œuvres qu'il pouvait être sauvé, mais simplement par la grâce de Dieu. Jonas n'était pas du tout excusable ici face à sa colère contre Dieu. Il connaissait parfaitement le cœur de Dieu et il savait qui était le Dieu d'Israël. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Jonas ne connaissait pas simplement le cœur de Dieu, parce qu'ici dans ce verset, il cite aussi les Écritures, Exode chapitre 34, un passage que tous les Israélites pieux connaissaient aussi. Donc Jonas connaissait pas simplement que Dieu, mais aussi il citait les Écritures. Pourtant, ce qu'il dit de sa bouche ne reflète pas du tout la transformation réelle de ce qu'il a dans son cœur. Oui, et c'est ici que Jonas révèle quelque chose d'incroyable. Triste, je dirais même, un visage de religieux. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, Jonas avait l'orthodoxie, la connaissance. Et après l'intervention de Dieu, il avait montré une forme d'orthopraxie aussi, une forme de pouvoir avoir un comportement aussi cohérent, obéissant. Mais ici, le problème persiste, c'est la crise d'orthopathie. Son cœur n'était pas aligné avec Dieu, complètement pas aligné. Ses motivations profondes restaient égoïstes. Résultat des courses, Jonas devient un petit pharisien, qui juge, alors que Dieu, lui, est un grand avocat, plein de compassion et de grâce. C'est incroyable. Où est-ce que Jonas en est arrivé? Alors nous devons faire attention aussi à nous-mêmes. Attention à ce que notre dénomination ou notre statut de chrétien ne devienne pas un obstacle à l'œuvre missionnaire de Dieu. Comprenez-vous bien? Autrement dit, comme Jonas, nous pouvons être tellement attachés à nos règles, à nos valeurs, à nos traditions, que cela nous empêche de refléter la véritable compassion, la véritable grâce scandaleuse de Dieu pour les autres. Le danger est d'utiliser les vérités bibliques comme un moyen de condamnation, plutôt comme un moyen de refléter la grâce de Dieu. Alors Dieu nous appelle, pas seulement à avoir simplement une bonne connaissance de théologie, une bonne connaissance orthodoxie, mais avant tout ce que Dieu veut, c'est une transformation profonde par son amour et par sa grâce, avant toute chose. Et souvent, j'ai vu beaucoup de ça quand j'étais allé annoncer l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens voulaient tout comprendre avant de venir à la foi. On est toujours confronté à ce genre de situation. Les gens veulent la connaissance avant. Et même quand on y vient au Seigneur, on veut la connaissance absolue. Mais ça change pas le cœur. Ça change pas le cœur, la connaissance. Moi, quand je suis parti annoncer l'évangile la première fois de ma vie, est-ce que j'avais déjà ouvert la Bible une fois dans ma vie? Non. Personne ne m'a appris à lire la Bible. Je suis allé et j'ai parlé simplement de la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Je n'avais pas de connaissances. Et aujourd'hui, même si je fais des études en théologie, je prêche, je ne me sens pas plus valorisé ou valorisant par rapport à avant. Oui. Et bien souvent, un religieux connaît ce que Dieu aime, en théorie, mais ne parvient pas à le manifester dans son cœur envers les autres. Il aime ce qu'il aime. Et ceux qui lui ressemblent, pas les étrangers, encore moins ses ennemis et ceux qui sont totalement différents de nous. Le Seigneur Jésus le rappelle clairement dans Matthieu chapitre 5, versets 46 à 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même aussi? Jésus nous enseigne une véritable leçon d'amour. Aimer au-delà de nos amis, aimer au-delà de nos familles, aimer ceux qui sont ennemis envers nous, aimer ceux qui sont différents de nous. Un jour au travail, j'avais un chef d'atelier qui était têtu comme une mule et avec un caractère dur. Et il vient me voir, il me dit, Damien, tout de suite, je suis en train de faire une distribution, je crois, à ce moment-là. Et il vient me voir, il me dit, Damien, j'ai besoin de rapide de 4 pneus à changer sur un Range Rover. Range Rover, c'est du 20 pouces. 20 pouces, ok, pas de souci, je vais y aller. Je vais faire mes pneus, puis un peu d'un coup, le chef d'atelier, il me dit, Damien, arrête ça, vite, il faut que tu ailles aider un mécanicien à faire autre chose plus urgent. Donc, moi, dans l'urgence, oui, d'accord, oui, chef, je pose les pneus et je pars. Et à mon grand retour, quand je suis revenu à mon surprise, quoi, la grande surprise, je suis arrivé, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je suis pas ta boniche, je vais pas ramasser tes pneus. Vous voyez? Le cœur, j'étais, je pouvais plus rien dire là. Il y avait simplement la colère qui bouillonnait en moi. Ah, c'était fou. Et là, ça a touché, ça m'a touché, ça m'a blessé, ça m'a humilié. Oui, une colère profonde est montée en moi. Je lui souhaitais, mais vas-y, fais couler la boîte, quoi. Fais couler la boîte. Tu gères mal l'atelier, tu fais couler la boîte. Hey, je te laisse point. Mais je me suis souvenu d'une chose. Les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes. J'ai décidé de prier pour lui. Et c'est par cette grâce scandaleuse que Dieu nous donne que j'ai pu lui pardonner. Pardonner à quelqu'un qui ne méritait même pas mon pardon. Même pas une miette. Humainement parlant, je parle là. Mais, les amis, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour moi et pour vous. Rappelez-vous ça. L'amour véritable ne dépend pas de ce que les autres font, mais dépend de ce que Dieu accomplit en nous pour eux. Le véritable amour. Jonas manque cruellement d'amour. Et poussé à l'extrême, il devient un égoïste démesuré, qui l'isole du reste du monde. Et oui, c'est exactement là où qu'il est actuellement, Jonas. Et il dit au Seigneur, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Jonas est submergé par sa colère et son amertume. Il préfère mourir plutôt que d'accepter que Dieu agisse par sa grâce. Ces paroles adressées à Dieu, à un Dieu plein de bonté, lent à la colère, plein de grâce, de miséricorde, reflète en réalité sa rébellion et sa douleur. Jonas cherche à manipuler Dieu parce que son orgueil a été touché. Oui, quand mon orgueil était touché là, à ce moment-là, à ce chef d'atelier, je l'ai souhaité carrément le mal. Je voulais le manipuler, mais je peux pas. Il voulait être le prophète du jugement de Ninive. Eh bien, il a été le prophète de la grâce. Et sa colère qu'il montre envers Dieu manifeste qu'il a vraiment pas d'amour dans son cœur. Et ça montre aussi une réalité, encore une fois, cette tension, ce bras de fer, comme je dis, avec Dieu. On pensait qu'elle était résolue. Eh bien non, on voyait aussi qu'au chapitre 4, elle n'était en réalité pas finie. Sa religiosité et son égoïsme profond le rend prisonnier. Alors au lieu que sa foi, la grâce de Dieu, soit un tremplin pour lui, pour refléter l'amour de Dieu, eh ben, elle devient une cage meurtrière pour lui-même. Et moi le premier, parce que quand je m'investis dans l'église du Seigneur, eh ben, un pasteur m'a dit, tu sais Damien, je m'investissais beaucoup trop. Et il me disait, Damien, dans le ministère, t'inquiète pas. Le ministère, c'est comme un tourbillon. Ça va t'aspirer. T'inquiète pas, t'en auras du travail. Mais fais attention. Parce qu'une fois que t'es aspiré, tu t'en sors plus trop. Et je comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, mais tant mieux, plus je sers, mieux c'est. Mais j'ai compris que, en fait, j'avais plus le temps pour les autres. J'avais plus le temps pour mon prochain. J'avais plus le temps pour annoncer l'évangile. D'aller aimer ceux qui pleurent. D'aller aimer ceux qui sont perdus comme moi, qui étaient perdus. Et je confesse aujourd'hui encore devant Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il y a eu un mois, une dame mongue voulait accepter le Seigneur. Mais j'étais tellement pris par mes brebis, par l'Église, que j'ai négligé ça, cette occasion de prêcher l'Évangile. Ça doit nous faire rappeler que cette foi religieuse peut être très dangereuse. Quand notre foi devient toute une question de règles, de traditions, d'apparence, remplir nos obligations ou suivre nos habitudes spirituelles peut nous détourner de l'essentiel. Oui, elle devient une cage meurtrière. Sans amour, ni compassion, ni grâce pour notre prochain. Attention à cela. Dieu cherche avant tout des adorateurs de sa grâce, des cœurs se laissant transformer, sensibles aux besoins des autres et de sa grande mission de sauvetage. C'est dans ce contexte que Dieu va enseigner Jonas par une pédagogie qui instruit. À travers une leçon simple, mais puissante, une plante qui pousse et qui sèche pour lui ouvrir les yeux sur son propre cœur. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville, là où il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea. Et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Face à l'agression de son prophète, clairement ici, Dieu, le Dieu lent à la colère, répond verbalement par une question. Fais-tu bien de t'irriter? Alors j'aimerais poser aussi une question, moi aussi, à nos chers parents qui sont ici. Cette attitude de Dieu vis-à-vis de Jonas, vous est-il familier? Est-ce qu'elle vous parle? Je vais vous éclairer un peu plus. Lorsqu'un enfant est en crise, il est plus efficace de crier pour le calmer ou de lui poser une simple question pour le faire réfléchir. Ah, là, c'est plus parlant. Jonas était trop en colère contre l'Éternel, comme un enfant pour entendre quoi que ce soit de son père. Un long discours de Dieu ne ferait que rebondir sur une oreille complètement fermée. Je pense que tous les parents, vous avez connu ce genre de situation. Et vous avez bien fait, si vous avez posé la question. Après le reste, c'est pas mon problème, si vous avez fait agir autrement. Ne tient plus de ma responsabilité de prédicateur, je plaisante. Alors, la question de Dieu, pour Jonas ici, est une invitation à un dialogue. Dieu veut reconstruire un dialogue avec son prophète et le faire réfléchir. Car Dieu est tout puissant, oui. Il avait largement de quoi remettre son prophète directement. Ferme la bouche, quoi. Il aurait pu faire ça. Parce que les propos de Jonas ici frôlaient largement la zone rouge de la tolérance possible face à Dieu. Alors que peut répondre Jonas ici? Est-il légitime de s'irriter contre l'Éternel? Qu'est-ce que fait Jonas? Jonas refuse catégoriquement de répondre à Dieu. Son égoïsme monstre montre qu'il est têtu comme une mule. Oui, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arrivait dans la ville. Pourquoi Jonas s'installe-t-il à l'est de la ville? Pourquoi ça? Pourquoi? Je comprends pas. Normalement, Jonas avait fini sa mission. Il a prêché le jugement. Il devait rentrer dans son peuple, retrouver son peuple. Il le disait très bien. Il ne voulait pas venir. Moi, je serai le premier, je serai parti directement auprès des monts. Mais non. Il fait quoi? Il va à l'est, il se construit une cabane, il regarde Ninive. Pourquoi? L'histoire aurait pu se finir paisiblement là, oui, avec Dieu. Mais non, Jonas ne voulait pas en finir là, avec Dieu. Parce que pour lui, revenir chez lui, ce serait une grosse défaite. Une grosse défaite pour lui. Une grosse défaite d'humiliation. Alors Jonas quitte la ville, s'installe à un abri de fortune, à l'extérieur de Ninive. Il veut rester dans la région comme observateur, pour voir ce qui se passe. Ou peut-être espérait-il se réjouir de voir Dieu changer et détruire Ninive. Encore une fois, son cœur montre clairement son désir de jugement plutôt que la compassion de Dieu. Pour confronter Jonas à son égoïsme démesuré, Dieu utilise une pédagogie simple et concrète. Puisque Jonas refuse de parler, Dieu choisit aussi un langage non-verbal pour rejoindre son prophète. L'Éternel, Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivre de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver, le rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. » Ah, Jonas. Dieu va commencer d'abord à lui faire du bien. Il va faire pousser cette grande plante pour lui offrir un véritable refuge, bien à l'ombre, du soleil et de la chaleur. Parce que à ce moment-là, il faut savoir que le contexte de Ninive était une région très chaude, très sec. Les températures avoisinaient les 40 à 45 degrés. Le vent soufflait parfois, comme on dirait, un sirocco, qui augmente la température à peu près de 10 degrés en plus quand ce vent se lève. C'est l'équivalent du Mistral, mais en pire. Alors Jonas ne peut pas refuser un tel confort. Et la réaction du prophète est immédiate. Pour la première fois dans le récit, Jonas est heureux. Ça m'a fait rire à ce moment-là. Il éprouva de la joie à cause de cette plante. C'est la première fois, Jonas, je vois ton sourire. Ah, ça fait du bien. Mais cette joie sera de courte durée. Dès le lendemain, Dieu envoie un ver qui ronge la plante. Puis un vent chaud, brûlant, le frappe. Jonas sombre à nouveau dans le désespoir et va jusqu'à souhaiter encore une fois la mort. Mais cette fois-ci, il ne souhaite plus la mort dans le sens que parce que Dieu va donner grâce à Ninive, mais il veut la mort parce que la plante n'est plus là. Pour une plante, quoi. Dieu va utiliser cette grande plante, en fait, pour détourner la colère de son prophète envers Ninive. Par une plante, afin de permettre à son prophète de faire face à lui-même, à son propre cœur. Jonas est attaché à son confort personnel, qui a duré 24 heures, mais son cœur ne s'est pas attaché au cœur de Dieu. Incroyable. Il attache à des choses qui sont éphémères, mais il n'arrive pas à s'attacher aux choses éternelles. Dieu, dans son instruction pédagogique ici, place Jonas face à son propre incohérence. Il y a une vraie incohérence. Jonas, comme on disait tout à l'heure, accepte lui-même la grâce pour lui. Mais il ne veut pas que cette grâce soit accordée aux autres. Il est attaché à son confort, ici la grande plante, mais pas aux vies des hommes et des humains. Donc toute l'action de l'Éternel n'a pas pour but ici de punir son prophète, mais de le décentrer de lui-même, de le déloger de sa position égocentrique. Dieu veut que Jonas réfléchisse à ses priorités, car son égoïsme démesuré affecte l'état de son cœur maintenant et l'état de sa foi. Ça va de plus en plus profond. Combien de fois nous attachons plus à notre confort, à nos désirs, à notre moi, qu'au désir de Dieu, qu'au cœur de Dieu? Combien de fois? L'égoïsme est comme un virus qui se répand lentement et ronge petit à petit notre foi intérieure, notre amour intérieur. La leçon est claire ici. Si Jonas pleure pour une plante qui ne lui a coûté rien, combien plus Dieu regrette la perte de ceux qui se détournent de lui. Ils désirent tous sauver. Ils désirent sauver Ninive. Dieu veut élargir le cœur de son prophète. Et Dieu veut aussi élargir par cette leçon nos cœurs. Nous sortir d'une foi religieuse et égocentrée comme Jonas, nous amener à une foi qui bat au rythme de son cœur à travers une grâce qui sauve. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ces paroles sont les dernières paroles de notre cher Jonas du livre. Elles révèlent toute son immaturité spirituelle et son égocentrisme. Une grande plante fanée lui semble une raison suffisante pour vouloir mourir. Je me souviens un jour d'un déménagement. J'ai été déménagé, un couple d'amis. Puis le mari vient me voir, il fait « Ouais, vas-y, on va débarrasser les plantes. » J'arrive. Je dis « Ah, cette plante-là, on la prend ?» Il regarde, « Oui, celle-là, elle est malade. Elle est blanche, elle a blanchi. Ouais, jette-la. » Puis, bon, bah, je la jette. Puis le lendemain, sa femme, elle arrive. « Hé, chérie, est-ce que tu as vu mon Monstera variegata ?» Il était comment? Bah, il était blanc et vert. Ah, oups. Je l'avais jeté hier, oui, effectivement. Elle était malade. Ah non, c'est une plante rare. Blanc et vert comme ça. Ah oui. Bah, non, je suis désolé chérie, mais elle est déjà bien broyée, écrasée ou brûlée même. Et là, imaginez-vous la suite de l'histoire, quoi. Il savait rien du tout, le mari, en fait. Je pensais qu'elle était blanche, vert. Oh oui, malade. Finalement, c'était une plante. Cette variété était comme ça. Effectivement. Et pour le cas de Jonas, bah, c'est pareil. Jonas s'apitoie pour une plante qui n'a vécu qu'une seule journée. Il est indigné par son confort perdu, mais reste insensible au sort d'une ville entière, avec des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Le prophète est resté figé physiquement. Il est resté assis, en attendant, pour voir le jugement de Ninive. Et mentalement, il persiste dans sa colère. Le bras de fer semble extrêmement au pic, là. Et Jonas n'a l'air d'avoir rien compris, Jonas. Mais Dieu va lui donner une leçon, une perspective plus juste de la situation de Dieu, en révélant la grandeur de son amour. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de se distinguer de leur droite et leur gauche et un grand nombre d'animaux. Ici, Dieu expose clairement son cœur. La grâce de Dieu est immense. Elle dépasse notre logique humaine, nos jugements, nos limites. Comment un homme peut avoir de la pitié pour une plante qui ne lui a rien coûté, qui a duré 24 heures, mais pas de Dieu? Dieu aime ceux qui ne savent pas encore discerner le bien et le mal. Les 120 000 êtres humains ici, incapables de se distinguer de leur droite et leur gauche, évoquent probablement les enfants de Ninive, ce qui rend la grâce de Dieu encore plus grande ici. Car si on rajoute les papas et les mamans, le nombre d'âmes ici s'élève à 500 millions, voire 1 million. 500 000, excusez-moi, j'étais trop, je voyais trop haut là. C'est le cœur d'évangéliste peut-être. Je plaisante. Alors, la repentance de Ninive est la plus grande jamais connue dans l'histoire antique. Le plus grand réveil qu'il n'y ait jamais eu. Le plus grand plan de sauvetage de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée en une journée. Et cette grâce-là se trouve tout son accomplissement en Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie, non pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne cache pas sa volonté de sauver. Il l'exprime clairement ici, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Les amis, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu un événement bien, bien, bien longtemps. Si un monde est devant vous pour prêcher, c'est qu'il y a eu forcément un début à tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a à peine 75 ans, la grâce de Dieu a bouleversé la vie d'un peuple montagnard, les Hmongs, perdus dans les montagnes d'Asie du Sud-Est, loin des influences modernes que connaissait déjà l'Europe de l'après-guerre. Ce peuple vivait depuis des siècles sous la peur des esprits. Leur religion animiste consistait à offrir des sacrifices d'animaux pour apaiser ces esprits de famine, ces forces invisibles qui les tenaient captifs. Ils n'avaient ni Bible, ni connaissance de Dieu. Spirituellement, ils ne distinguaient pas aussi leur droite et leur gauche, tout comme Ninive du temps de Jonas. Le peuple Hmong, chassé par des décennies de guerre et de persécution, s'est réfugié toujours plus loin, au fin fond des grandes montagnes, des régions reculées de la planète. Pourtant, il faut avouer qu'il y a 75 ans, Dieu ne les avait pas oubliés. Seulement 75 ans. Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans qu'il est là. Et il n'y a que 75 ans que l'évangile est arrivé au monde. Dans les années 1950, il a envoyé ses messagers, comme Jonas, jusqu'à ces montagnes reculées. Et contre toute attente, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande partie du peuple Hmong a cru par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, près d'un tiers des Hmong sont chrétiens. Un peuple autrefois enchaîné par la peur, brisé par la guerre, sans patrie, sans pays, sans terre, chante maintenant la liberté en Jésus-Christ. Voilà la grâce scandaleuse de Dieu. L'histoire des Hmongs nous rappelle que la grâce de Dieu franchit toutes les barrières culturelles, géographiques et spirituelles. Que Dieu voit chaque peuple, chaque personne, même celles qui ont l'air d'être totalement perdues, quoi. Même ceux qui ont l'air totalement perdus. Que l'amour de Dieu aussi est constant, actif. Dieu ne s'arrête jamais d'aimer. Il envoie toujours ses messagers annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet Évangile qui sauve. Alors n'oublions pas, si Dieu à travers les siècles, les continents et les cultures, pour aller chercher les Hmongs animistes, alors il peut aussi lui-même traverser les murs de ton cœur, les murs de ta nation, afin que ta nation et toi soyez sauvés par sa grâce. Dieu a toutes les raisons d'avoir plus pitié que Jonas ici. Contrairement à Jonas, trop limité ici, Dieu voit la situation de sa globalité et rien ne peut lui échapper. Conclusion. Alors l'histoire de Jonas n'est pas simplement celle d'un prophète. C'est un miroir que Dieu tend en face de nous pour nous révéler la profondeur de son cœur face à notre cœur. Le silence de la fin du livre laisse des questions ouvertes. Comprenons-nous le cœur de Dieu aujourd'hui ou restons-nous en bras de fer avec lui encore? Sommes-nous calqués à un cœur de Jonas ou un cœur de grâce de Dieu? Dieu nous encourage, mes frères et sœurs, nous encourage vraiment à partager son cœur, pleinement révélé en Jésus-Christ, qui lui nous enseigne. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une théorie, elle est une réalité qui doit nous pousser à la transformation jour après jour. Que le livre de Jonas nous rappelle à ne pas rester enfermés dans cette certitude, dans notre religiosité et notre égoïsme, mais à devenir chaque jour des témoins de la grâce puissante de Dieu qui transforme et qui sauve encore aujourd'hui. Amen.